Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes au Mondial de l'Automobile, en direct, en public. Je salue d'ailleurs tout de suite avec mes invités Bruno Fuligny et Mathieu Frachon, tous ceux qui ont abandonné un petit peu les stands des voitures pour venir voir comment se passe une émission sur RTL. Nous sommes évidemment en compagnie de Justine Vignot qui m'aide tous les jours à préparer ces émissions avec Laure Broulard. Et puis à Paris, 22 rue Bayard, il est un peu puni cet après-midi. C'est Sébastien Rocheron qui est à la technique du 22 rue Bayard et c'est Mathias Julien qui est avec nous et qui nous accompagne ici au Mondial de l'Automobile. Alors je suis particulièrement ravi parce que on va vous raconter des histoires avec moi, j'adore ça. Elles sont pas vraiment morales. On va ouvrir une sorte de wouzou du crime avec des barons, des marquis, des comtes, des princesses, des comtesses, dont toutes d'ailleurs ne sont pas issues de grandes lignées, mais il y a aussi pas mal d'escrocs, et je sais pas comment on dit au féminin, d'escrocs, allez, on va dire, parmi ces gens-là. Il y en a qui sont particulièrement redoutables, et hommes et femmes, qui tuent leurs compagnons, qui les empoisonnent, qui les découpent en morceaux. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui nous auraient tendance à nous faire plutôt sourire. Alors, tout de suite, je voudrais saluer mes invités. D'abord, Bruno Fuligny, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça vous ressemble pas, enfin, je veux dire, vous n'avez pas la tête de l'emploi, si j'ose dire. Il n'y a pas marqué.
Heureusement.
Je vais dire à ceux qui nous regardent, bon, il est haut fonctionnaire, il travaille à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une première vie. Puis il y en a une autre de passionné d'histoire, avec un H majuscule et d'histoire aussi contemporaine et ancienne. Et vous avez été le maître d'œuvre, si j'ose dire, d'un travail collectif qui a débouché sur un livre qui vient de paraître, que je recommande vraiment à tout le monde et à qui on a volé le titre de l'émission, Les Aristos du crime, des histoires extraordinaires, mais vrai. Vous pouvez nous dire un tout petit mot sur cette aventure, parce que c'en est une, hein,
je crois. C'en est une, parce qu'en fait, c'est le numéro 1 d'une revue qui s'appelle Folle Histoire. Simplement, c'est une revue qui se vendra en librairie, pas en kiosque. C'est pour ça que ça ressemble à un livre. Mm-hmm. La différence avec un livre, c'est que dedans, il y a des textes d'une douzaine d'auteurs très différents qui ont en commun cette passion de l'histoire avec un grand H, et puis de toutes ces petites histoires qui nous ravissent.
Voilà. Alors, il y a évidemment des histoires très connues. On va tout à l'heure aborder l'histoire de la Brinvilliers. Enfin, elle est très connue, mais elle mérite vraiment qu'on s'y arrête un peu, parce que elle avait sa place chez les Aristos du crime, hein, parce que voilà, c'était une vraie princesse, non,
marquise.
Une marquise. Et elle a vraiment décimé toute sa famille. Et en plus, avec, je ne sais pas comment dire, une perversité particulière, puisque avant d'utiliser ses produits, ses poisons sur sa famille, elle les a testés dans les hôpitaux de Paris. Bon, alors on va en rester là pour l'instant. Avec bonjour Mathieu Frachon.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de ces histoires, puisque j'ai dit que c'était un travail collectif. Et vous êtes intéressé à une femme particulièrement terrible.
Une femme de tête, si j'ose dire.
Qu'on n'aimerait pas rencontrer. Oui, alors une femme de tête, faut expliquer pourquoi.
Parce que en fait, elle avait collectionné ses amants après les avoir dépouillés. Elle collectionnait les têtes de ses amants qu'elle gardait sur des plateaux en argent dans une armoire. Charmante jeune femme.
Voilà, et alors évidemment au bout d'un moment ça a commencé à se faire remarquer quand même, parce que dans Paris il y a en l'espace de quelques mois 25 jeunes gens quand même, parce que elle les choisissait jeunes et beaux en plus.
Ah ben tant faire.
Voilà, 17 à 25 ans, 25 jeunes gens disparaissent, et la police, évidemment, que fait la police? Bah la police va être extrêmement efficace avec un inspecteur tout à fait particulier qui s'appelle le commissaire
Lecoq.
Lecoq, voilà. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Bruno Fuligny. On va raconter l'histoire de ces baronnes proxénètes, moi, qui m'ont ravi. Alors, bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, si j'ose dire. Ou alors, il y a
petite
ce qu'on
mort.
Appelait petite mort. Voilà, exactement. Tout commence le 11 janvier 1873 à Paris par une descente de police dans le quartier de la Madeleine. Et derrière la porte, que trouvent les policiers?
Alors, il faut bien se situer. Nous sommes effectivement non seulement dans le quartier de la Madeleine, mais en fait, tout près du ministère de l'Intérieur,
rue de Suresnes.
Au 21 bis rue de Suresnes. Ukraine. Et d'ailleurs, l'immeuble existe toujours. Pour l'anecdote, c'est l'ambassade de l'Ouzbékistan. Alors, je ne sais pas si ces braves diplomates d'Asie centrale ont idée de ce qui a pu se passer dans leur bureau.
Ouais, vous savez qu'au 22 rue Bayard, il y avait quand même, à une certaine époque, le panier fleuri, quand même. Hein. Bon,
voilà, comme quoi, voilà, vous voyez.
C'est très connu dans le milieu de la galanterie à Paris. Hein. Bon, comme quoi, vous voyez.
Alors, le panier fleuri, c'était effectivement une maison close. Alors que rue de Suresnes, on a plutôt ce qu'on appelle une maison de rendez-vous. Donc, c'est plus discret et il n'y a pas de pensionnaire. En revanche, on peut y rencontrer des dames qui sont là de passage, un peu désœuvrées et qui, éventuellement, vont améliorer l'ordinaire. Mais surtout, comme on est dans les beaux quartiers, cette maison, elle est tenue par une baronne Strozak et elle passe pour avoir, si j'ose dire, elle passe pour avoir comme
pensionnaire
de rencontre, oui, et bien des dames de la haute aristocratie. Ouais. Et donc, évidemment, on veut mettre fin au scandale. Donc, la police intervient, elle pousse la porte, il y a une véritable descente et là, on a des descriptions assez incroyables où toutes ces dames qui ne veulent surtout pas être identifiées se cachent jusque dans les toilettes. Certaines essayent de passer par la fenêtre, d'autres se dissimulent derrière les rideaux. En plus, elles sont plus ou moins habillées, plutôt moins que plus. Bref, il y a une espèce de scène de genre digne des meilleures pantalonnades. Et
la police embarque
les personnes présentes.
Voilà. Alors, chez les personnes présentes, on va constater qu'il y a un certain nombre de personnes de la haute société. Alors, de la haute société ou pas, parce que la police a, et vous le racontez dans ce, puisque c'est vous qui avez écrit cette histoire dans le livre, la police a à sa disposition une sorte de, comment dire,
de registre
qui s'appelle comment déjà?
Le registre des courtisanes, ou livre des femmes galantes, tout ce que vous voudrez. Ouais. C'est un très gros registre, manuscrit, qui est bien tenu, et c'est indispensable. Parce que lorsqu'arrive le procès, évidemment, tout le monde dans Paris veut absolument assister à ce procès. Et on pense qu'on va voir la femme du prince untel, la marquise de ceci, ou la comtesse de cela.
Bon,
évidemment, elles ne seront pas convoquées. Et en fait, le public qui va avoir négocié très cher ses places, eh bien, va repartir un peu déçu. Parce que celles qui vont passer devant le juge, y compris la baronne Strozak, ne sont pas plus baronnes que vous et moi.
Par exemple, Delphine de Lizy, on va l'appeler à la barre, Madame Guillet, les filles de Lingère, et puis Berthe de Roquemort, c'est Berthe le Gros, qu'on a appelé aussi à Monaco pendant un temps, la princesse de Maslov. Alors, pas tout à fait faux, elle avait eu un amant.
Voilà, elle avait un amant qui était un vrai prince Maslov. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelait dans la prostitution, dans la galanterie autrefois, les noms de guerre. Ouais. Et que ce soit sur scène ou dans le déduit, effectivement, se donner un nom aristocratique à cette époque-là était bien vu et c'était peut-être aussi un piment pour ces messieurs. Évidemment, si vous avez rendez-vous avec Cléopâtre de Charny, ça flatte quand même un petit peu l'ego.
Ouais,
bon,
Marie Dubreuil,
c'est pas pareil.
Et alors, il y a aussi quand même, au passage, on peut citer la marquise de Castillon.
Alors là, par contre, c'est un cas tangent, beaucoup plus intéressant, puisque la marquise de Castillon est née Marx. Elle est née dans une famille juive de marchands de chevaux, et elle s'est prostituée assez jeune, au départ avec un négociant. Et alors ce négociant, tenez-vous bien, l'a perdue aux cartes. Il y a eu une partie de cartes endiablée, et le marquis de Castillon a raflé d'abord tout l'argent, tous les bijoux, tout ce qu'il y avait de la valeur, et pensant se refaire, eh bien son adversaire a joué sa maîtresse. Il l'a perdu. La future marquise de Castillon est donc gagnée par le marquis qui va l'épouser à l'article de la mort après avoir fait une chute de cheval. Et c'est comme ça qu'elle devient authentiquement marquise.
Voilà, et qu'elle hérite quand même du monsieur. Alors, on va mettre des points de suspension. On va revenir ensemble tout à l'heure à cette histoire. Je voudrais que les auditeurs la gardent en tête, la descente de police rue de Suresnes, parce que les policiers qui enquêtent vont faire une découverte assez rigolote, je dois dire. C'est que l'une de ces fameuses pensions à qui nous allons décerner une mention spéciale dans cette émission, s'appelle Blanche de Hurel. Elle est d'origine bretonne et elle a ramené de Bretagne une étrange pratique pour faire venir le client. Vous voulez savoir quoi? Va falloir écouter l'émission parce qu'on va en reparler qu'à la fin.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, l'heure du crime se déroule en direct et en public depuis le Mondial de l'automobile. Mes invités Bruno Fulini et Mathieu Frachon, deux parmi toute l'équipe de passionnés de faits divers qui ont contribué à cette revue mais qui ressemble furieusement à un livre, parce qu'elle est aussi épaisse qu'un livre, sous l'étiquette de Folle Histoire. C'est une revue qui va revenir régulièrement, tous les 3 mois, en changeant de thème. Et le thème de la première édition, eh bien, ce sont les aristos du crime. Alors, on quitte les maisons plus ou moins closes de Paris. Mathieu Frachon, on va s'intéresser à une femme terrible, vraiment une tueuse en série, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais avant de raconter l'histoire de la princesse Jabirovska et comment la police a pu finir par élucider ce mystère, il faut dire que il y a à Paris, on est au XVIIe siècle, il y a à Paris un peu l'ancêtre du préfet de police, l'homme chargé de la sécurité de la capitale. Il s'appelle Gabriel Nicolas de la Reynie. C'est Louis XIV qui l'a désigné. Et en fait, Louis XIV avait pris un coup de sang terrible à la suite d'un événement qui lui avait fortement déplu. On avait assassiné chez lui un personnage très important, hein, de son entourage.
Alors en fait, à l'époque, il faut imaginer une sorte de préfet de police. Il y avait deux préfets. Il y avait un lieutenant général de police et un autre personnage qui lui s'occupait plus des affaires, j'allais dire, courantes. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, non seulement le lieutenant général de police est assassiné chez lui, il est arrivé aussi...
Sa femme aussi, d'ailleurs.
Donc, et sa femme aussi. Et on se rend compte qu'il était totalement corrompu. Déjà, ça fait des ordres. Ouais. Survivance du Moyen-Âge, il y a encore une cour des miracles. Ouais. Avec des gens qui sont tranquillement, une sorte d'état dans l'état, tranquillement installé, derrière notre carreau du temple, par là, à Paris.
Et tous les coupes jarrées se réunissent
de voleurs. Là, voilà, d'accord. Le soir où les paralytiques se remettent à marcher, les borgnes se remettent à voir, tout va bien, quoi. La cour des miracles.
Et la Reynie va faire le ménage.
La Reynie fait le ménage, il est nommé, c'est un juriste extrêmement brillant, il est nommé par Louis XIV, qui lui dit, ça suffit, nous avons la plus grande ville au monde en termes de population, mais nous avons aussi la plus dangereuse.
Il y a 500 000 personnes à Paris à cette époque.
C'est la plus grande ville au monde à l'époque. Et arrive la Reynie qui commence à faire non seulement œuvre de police, mais œuvre aussi, j'allais dire, d'urbanisme. Il met des lanternes pour que les rues soient éclairées.
6 000 lanternes,
ce qui est considérable. Il essaie de nettoyer la Seine où à l'époque passent des cadavres de vaches, des choses aussi ragoûtantes que ce genre de truc. On est loin de se baigner dans la Seine en l'an 2000 comme l'avait promis un maire de Paris. Et bref, c'est absolument abominable. Et ensuite, la Reynie met tout en œuvre au niveau, justement, de la police. Ouais. Il va encercler la cour des miracles et il va donner aux gens, je crois, un quart d'heure pour en sortir. Sinon, ils en sortiraient les pieds devant.
Voilà. Et donc, tout le monde est sorti.
Tout le monde est sorti.
Et la lumière a fait que les ruelles coupe-gorge ont un peu disparu. Pas totalement, bien sûr, mais enfin, que la criminalité, comme on dirait, a été en chute libre. Et puis, au printemps 1676, il y a une rumeur qui commence à enfler, qui arrive aux oreilles de Louis XIV et de la Reynie. Des jeunes gens disparaissent mystérieusement. 26 jeunes gens ont disparu au printemps 1676. Et on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière tout cela. Et la Reynie a un collaborateur qui est lui presque un ancêtre de Maigret l'ancêtre du flic de roman policier. Il s'appelle Benoît Lecoq et pour résoudre l'énigme des jeunes gens disparus, il va avoir une idée incroyable.
Alors d'abord, il faut pas oublier qu'on est à l'époque de la non-information, c'est la rumeur. Ces 26 jeunes gens qui ont disparu sont tous des jeunes gens de bonne famille, riches. Et la population s'alarme. Et évidemment, on dit tout. On dit que ce sont des juifs qui ont fait ça. On dit que ce sont des œuvres de Satan. On parle d'une comtesse qui prendrait des bains de sang. Bref, on dit tout et n'importe quoi. Donc Louis XIV dit, bon allez, ça suffit, vous allez me résoudre ça. Et effectivement, l'exempte, donc l'officier de police Benoît Lecoq, amène son propre fils.
Qui a 17 ans.
Qui a 17 ans, qu'on appelle l'éveillé. Et l'éveillé va jouer le rôle, il va porter une belle perruque, des beaux vêtements.
On va le lâcher dans les rues de Paris.
On va le lâcher dans les rues
c'est
de Paris.
C'est faire la chèvre, hein, ça s'appelle
faire
comme
la
ça.
Chèvre,
hein,
ouais. Tout à fait. Ouais. Il va se balader dans ce fameux palais royal où tout se fait, se défait, y compris la petite et la grande courtisanerie.
Oui, voilà, et où on a cerné quand même le quartier où les jeunes gens disparaissaient, et dans l'espoir, évidemment, que quelque chose arrive. Évidemment, il est surveillé.
Bien sûr.
Il y a des policiers qui sont là, puis en plus, c'est le fils de du commissaire, donc on fait très attention.
On va éviter.
Et alors, on voit que ce garçon, un jour, rencontre une femme avec sa gouvernante, son chaperon, quoi.
En fait, la chèvre a finalement attrapé une tigresse qui arrive, qui commence à flairer. Alors, elle commence à flairer par le biais, parce que les dames ne sortent jamais sans leur dame de compagnie, qui commence à être là, qui commence à regarder, monsieur, vous êtes bien beau, bien gentil, etc. Oui. Et elle lui explique la situation. Sa maîtresse est une princesse polonaise, qui s'appelle Jabiroska, fille d'un gentilhomme ruiné, et elle souhaite se marier en France, mais évidemment, une personne de son rang ne peut pas se marier avec n'importe qui.
Bien sûr.
Donc, arrive le moment où les choses avancent. On dit, bon, allez, monsieur, rendez-vous. Ouais. Alors, chose intéressante, le rendez-vous, l'adresse du rendez-vous diffère, mais il paraît que ce serait peut-être au quai des Orfèvres.
En plus,
ce qui manque pas de...
Ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Ce qui manque quand même
Le fils de Benoît Lecoq rencontre cette dame. Il est très bien, il a une chaîne en or. Enfin bon, il a des habits de prix qu'on lui a mis, etc.
Deux montres,
alors donc c'est dire, hein, quand même, il a réussi sa vie. Il n'y a pas encore de Rolex à l'époque, mais enfin bon, on est sur le chemin. Et rendez-vous est pris donc chez cette femme. Et les policiers voient ce jeune homme entrer dans cette maison, alors peut-être au 36 qui est des enfants, j'en sais rien. Mais surtout, il ne ressort pas. Alors là, l'ambiance commence à...
L'ambiance commence à se peser, et puis alors, d'après les témoignages, d'après les archives, il est dit que finalement, il se fait un peu oublier, parce que la dame est très belle, et qu'il se dit, bon ma foi,
il aurait peut-être, il se serait dit, après tout, quitte à jouer la chèvre...
Voilà, autant aller jusqu'au bout, autant consommer l'histoire.
D'accord.
Et bien, finalement...
On ne saura jamais, ça.
On ne saura jamais. Benoît Lecoq commence à dire, bon, allez, ça suffit la plaisanterie, on rentre, on investit...
Assaut.
Le château, enfin le... L'appartement, l'espèce d'hôtel particulier.
Ouais.
Et là, on attrape des malandrins qui sont en train de partir dans tous les sens, donc les complices. Et puis, on interroge la dame, qui dit rien, qui ne veut pas avouer. Et on ouvre un placard, une espèce d'immense armoire, l'armoire normande qu'on a tous vue, peut-être la version plus améliorée.
Et là, énorme malaise des policiers.
26 têtes naturalisées, posées sur des assiettes en argent. Bon, c'est un côté un peu élégant, mais quelque peu morbide.
Oui.
Et on apprend à ce moment-là, après les aveux plus ou moins forcés des complices, que la dame, simplement prenait les voleurs, prenait tout ce qui était argent, bien, les deux montres, tout ça, etc.
Oui, oui.
Et faisait couper la tête de ses victimes, qu'elle envoyait à des savants allemands pour étudier le crâne des décapités, et notamment sur une espèce d'étrange science, la phrénologie, qui dit qu'on détermine le caractère des gens grâce au bosses du crâne. Ah. L'histoire de la bosse des maths, etc. Absolument morbide et effroyable.
Voilà. Mais c'est une histoire, comme le dit le slogan de la revue Folle Histoire, qui est porté sur la couverture, une histoire extraordinaire, mais vraie. Et c'est pas la dernière qu'on va vous raconter cet après-midi. Donc on se retrouve dans quelques instants.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, les aristos du crime en direct et en public depuis le mondial de l'automobile. Et maintenant, je vais vous raconter avec mes invités Bruno Fulini et Mathieu Frachon l'affaire des poisons. On pouvait pas ne pas en parler. Le plus grand scandale du règne de Louis XIV. Et je vais vous raconter en particulier l'histoire de celle par qui le scandale est arrivé. L'histoire de la marquise de Brinvilliers. Elle était toute petite, charmante, gracieuse, jolie pour tout dire, avec de grands yeux bleus. Elle s'appelait Marie-Madeleine Dreux d'Aubray, de son nom de jeune fille. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, était le puissant et redouté lieutenant civil du prévôt de Paris, premier magistrat et premier officier de police de la capitale. En 1648, Marie-Madeleine avait épousé un autre Antoine, Antoine de Gobelin, bientôt marquis de Brinvilliers. Tout dans les premiers temps paraissait sourire au jeune couple, des rentes plus que confortables, 5 beaux enfants, 2 filles et 3 garçons. Mais ce que le marquis de Brinvilliers ne savait pas, c'est que Marie-Madeleine, qui allait devenir une des plus grandes criminelles de son temps, avait, comme on dit, le diable au corps depuis sa toute petite enfance. Déflorée à l'âge de 5 ans, partageant l'inceste avec ses frères à partir de 7 ans, le vice l'habitait, comme dira plus tard Madame de Sévigné dans une de ses fameuses lettres. Et c'est cette femme-là qu'Antoine de Gobelin avait épousée alors qu'elle venait tout juste d'avoir 21 ans. Les années passant, le marquis avait présenté à sa femme un aventurier, ami de hasard et de table de jeu, un certain Gaudin de Sainte-Croix, qui était devenu l'amant de madame pendant les longues absences d'Antoine, pris par sa charge de militaire. Et bientôt, Sainte-Croix, la marquise et le marquis de Brinvilliers vont former ce qu'on appelle déjà un ménage à trois. Cette situation met le père de Marie-Madeleine en fureur. Il décide de mettre le holà, de donner un coup d'arrêt définitif à cette relation inacceptable en faisant embastiller Sainte-Croix par une lettre de cachet. C'est une décision qui sera lourde, très lourde de conséquences, car c'est de la Bastille que l'amant de la Brinvilliers va rapporter le secret de la fabrication des poisons qui seront le point de départ d'un des plus retentissants procès de l'Ancien Régime. Sainte-Croix restera seulement 6 semaines à la Bastille, 6 semaines au cours desquelles il aura le temps de faire la connaissance d'un certain Exili, un Italien, alchimiste, aventurier, qui se présente à lui comme un véritable artiste en matière d'empoisonnement. Pendant son séjour, l'amant de la Brinvilliers découvre les recettes de fabrication de poison qui, lui dit son co-détenu, ne laisse pas de traces et assure l'impunité. Exili lui donne également l'adresse à Paris d'un maître chimiste d'origine suisse, Christophe Glaser, qui tient boutique au Faubourg Saint-Germain. Dès sa sortie de prison, Sainte-Croix raconte à Marie-Madeleine ce qu'il a découvert. La marquise de Brinvilliers, humiliée par la décision de son père qui a embastillé son amant, décide alors de se débarrasser de son géniteur et elle va faire ses premières emplettes chez Glaser. Mais avant de passer à l'acte, elle veut d'abord tester l'efficacité des poisons. Alors le soir venu, troquant ses atours jolis et vaporeux de grande dame contre des habits modestes et crasseux de femme de charité, la marquise de Brinvilliers hante la nuit les hôpitaux et les hospices de Paris. Et là, elle réconforte les malades et les indigents. Elle les console, elle leur apporte dans des fioles achetées chez Glaser, bien sûr, des médicaments, dit-elle, certes mystérieux, mais qui les guériront. En réalité, elle teste sur les pauvres malades ces poisons. Et elle note tout, les doses, les symptômes, la longueur de l'agonie. Elle est rapidement d'ailleurs très satisfaite des résultats puisque le poison ne laisse effectivement aucune trace et les médecins concluent toujours à des morts naturelles. Marie-Madeleine met alors son plan à exécution. Elle fait boire à son père pendant plusieurs mois des doses de poison qui finissent par l'emporter dans des souffrances épouvantables le 10 septembre 1666 à l'âge de 66 ans. Elle se venge ainsi de l'arrestation de Sainte-Croix et elle améliore du même coup sa situation financière en partageant avec ses frères et sœurs l'héritage confortable du magistrat. Mais pourquoi partager ce qu'elle pourrait obtenir finalement en empoisonnant le reste de la famille ? Les frères de la marquise vont décéder tous en 1670, après bien sûr avoir bu un breuvage fatal qu'elle leur avait préparé. Toujours pendant la même année 1670, la sœur de la marquise, dernière héritière potentielle, qui lui reprochait par ailleurs sa manière de vivre, le nombre de ses amants, souffre pendant de longs mois d'une maladie inconnue qui finit par l'emporter. Marie-Madeleine tentera également de tuer sa propre fille qu'elle trouve stupide, mais l'infanticide échoue. La voilà en tout cas riche, impunie et vengée de son enfance sulfureuse. Il lui reste encore à se débarrasser de son mari. Mais là, disons-le tout de suite, elle n'y parviendra pas car Antoine de Gobelin se méfie. Il trouve qu'on meurt beaucoup dans l'entourage de sa femme et il se retire prudemment sur ses terres en province où, étant donné leur relation, il lui sera bien difficile de l'atteindre. Sainte-Croix, de son côté, commence aussi à avoir peur de sa maîtresse qui lui a fait confidence de tous ses assassinats, tentés ou réussis. Il s'inquiète de cette fureur meurtrière qui semble sans limite. Alors il enferme dans un coffret de cuir rouge les preuves de la culpabilité de Madame de Brinvilliers, des courriers personnels, une confession écrite de sa main dans son journal intime et aussi quelques fioles de poison non utilisées avec cette inscription « À n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise ». Et le 31 juillet 1672, Sainte-Croix meurt, disons-le tout de suite, de mort naturelle. Il meurt à son domicile, place Maubert, à Paris, mais comme il est également criblé de dettes, ses créanciers écrivent aussitôt au procureur du roi pour réclamer leur dû. Alors, un inventaire de ses biens est ordonné, et c'est au cours de cet inventaire qu'on découvre la fameuse cassette rouge. Les fioles qu'elle contient sont vite identifiées comme des poisons mortels par les apothicaires qui sont consultés par les enquêteurs. Avertie de la mort de Sainte-Croix, la marquise prend peur. On arrête également d'ailleurs son valet, Lachaussée, qui a été également un de ses amants et le complice de l'assassinat de ses frères. Elle décide alors de quitter la France. Elle s'enfuit à Londres, puis aux Pays-Bas et enfin en Belgique, où elle sera retrouvée dans un couvent près de Liège. Avertie de l'enquête, Louis XIV en personne a lancé sa police secrète aux trousses de la marquise, car on a découvert que celle-ci avait fait le commerce de ses fioles de poison avec quelques belles dames de la cour de Versailles, désireuses de se débarrasser de leur mari. La Brinvilliers sera décapitée le 17 juillet 1676, en place de Grève, devant une foule houleuse et horrifiée. Mais la mort de l'empoisonneuse en série n'arrête pas l'enquête de la police. Le pire était encore à venir. L'affaire des poisons allait devenir dès l'année suivante une véritable affaire d'État, mais c'est une autre histoire.
RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime.
Et on se retrouve dans un instant avec Bruno Filigny et Mathieu Frachon pour cette émission spéciale au Mondial de l'Automobile, spéciale les Aristos du crime.
L'heure du crime sur RTL.
Les Aristos du crime, on retrouve Bruno Filigny. Tout de suite, on retrouvera Mathieu Frachon pour la dernière partie de cette émission. Bruno Filigny, c'est une histoire de grosse tête finalement qu'on va raconter, parce que j'ai découvert en lisant votre texte sur celui dont on va parler, l'assassin d'Auteuil, qu'à l'époque il y avait une mode chez les caricaturistes, c'était de faire des grosses têtes effectivement aux gens dont on voulait se moquer.
Oui, c'est une technique de caricature où on représente un personnage avec une énorme tête proportionnellement à son corps. Et puis, évidemment, on insiste sur toutes les difformités possibles, toutes les caractéristiques qui sont absolument outrées. Et il y a comme cela un certain Mailly qui était un dessinateur, qui s'était spécialisé et qui avait fait une série qui s'appelait joliment Le Pilori. Donc, nous sommes au lendemain de la chute du Second Empire et il a représenté tous les personnages du Second Empire, y compris Napoléon III, avec des grosses têtes sur un pilori, c'est-à-dire ces endroits où on exposait autrefois les condamnés entre deux planches de bois.
Alors, quel rapport avec l'assassin d'Auteuil?
Parce que parmi les dignitaires de l'Empire, il y a un prince Bonaparte, Pierre Bonaparte, qui est resté dans l'histoire sous ce nom, l'assassin d'Auteuil. C'est un véritable membre de la famille impériale. Très précisément, c'est l'un des fils de Lucien Bonaparte, frère de Napoléon. C'est grâce à Lucien que Napoléon a pu prendre le pouvoir et fonder finalement ce qui va devenir toute la dynastie impériale. Et Pierre Bonaparte, c'est vraiment l'enfant terrible de la famille Bonaparte.
C'est un aventurier, on peut
un véritable dire, aventurier. Ouais. Donc il est né en Italie. Alors il a comploté dans des sociétés secrètes, ouais. Il s'est battu en Amérique du Sud, il a connu le Far West. Ouais. Un jour à New York, il croise un type. Ah oui, il y a un type qui le regarde méchamment, il sort son flingue, il le bute directement. Hein. Et puis il revient en France, où là, après 1848, le suffrage universel, les élections, il est élu député.
Et il s'installe dans une villa à Auteuil, d'où le nom de l'assassin d'Auteuil.
Ouais. Alors, Auteuil, au départ, c'est un village, fait partie de ces villages qui ont été réunis à Paris en 1860, qui deviennent des quartiers de Paris. Et donc, au 59 rue d'Auteuil, il a son hôtel particulier, alors qui lui n'existe plus, qui a été remplacé par un immeuble moderne, et où il va recevoir deux jeunes journalistes.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il a le sang chaud, on a compris. Suisse. Hein.
C'est un Corse.
Et voilà, oui, mais il y a un autre journaliste corse aussi. Qui écrit des abominations sur lui dans un canard dont j'ai oublié.
On n'a pas idée de la haine qui pourrait opposer bonapartistes et républicains. Et donc, par journaux corses interposés, la revanche pour les républicains et l'avenir de la Corse pour les bonapartistes, on se traite de tout, à telle enseigne qu'à un moment, le prince Bonaparte explique en Corse qu'il va mettre les tripes au champ à ses adversaires.
Et notamment ce monsieur qui s'appelle Pascal Grousset.
Et qui est un très jeune républicain. Oui. Alors, Bonaparte, Pierre, pense qu'évidemment tout ça va déboucher sur un duel, mais un duel avec un homme à sa mesure, Henri Rochefort, marquis, qui est le prince des polémistes à l'époque et dans le camp républicain, la plume la plus redoutée. Et il est absolument furieux quand il comprend que les gens qui viennent le voir porteurs d'un cartel, c'est-à-dire de l'écrit qui va déclencher le duel, eh bien, ils sont envoyés par un jeune journaliste inconnu, très jeune, il a une vingtaine d'années, ce Pascal Grousset qu'il n'a jamais rencontré. Alors le prince est absolument furieux, il les traite de tout, il leur demande, êtes-vous solidaire de ces charognes, sikhs ? Les deux qui sont très jeunes sont un peu désemparés, le prince a un pistolet armé dans sa poche et il tire. Alors il abat littéralement à bout portant Victor Noir et le second témoin Ulrich de Fonvielle n'a que le temps de déguerpir. Il aura d'ailleurs deux trous dans son manteau, mais lui sera sain et sauf.
Voilà. Donc voilà pourquoi on appelle ce prince Bonaparte l'assassin d'Auteuil. Et vous venez de prononcer un nom qui peut-être ne dit pas grand-chose à certains de ceux ou de celles qui nous écoutent. Victor Noir, mais c'était d'abord un très jeune journaliste qui avait une plume reconnue, de très grand talent. Et dans la tombe se trouve au Père Lachaise.
Père Lachaise. Et donc cette victime.
On peut toujours voir là.
Cette victime de l'assassin d'Auteuil à sa tombe au Père Lachaise, avec un gisant, c'est-à-dire une sculpture couchée de Dalou qui le représente. Simplement, il y a un pli du vêtement qui est devenu célèbre parce qu'on lui prête des vertus magiques. Et disons que les Parisiennes en mal d'enfant vont parfois s'allonger sur le gisant de Victor Noir, qui est donc tout à fait luisant à cet endroit. Ça.
Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de soleil. Mais on repère effectivement l'endroit d'assez loin, je peux en témoigner, parce que j'y suis allé un jour pour une émission d'ailleurs, hein, émission Père Lachaise, ça existe. On va revenir à notre prince là, quand même on tue pas impunément comme ça les gens, donc il va y avoir un procès.
Alors, il y a effectivement un procès, mais il s'agit quand même du cousin germain de l'empereur régnant. Donc, pour vous donner une idée, le commissaire de police n'ose pas aller l'arrêter. Il demande des ordres. Et finalement, le prince va être arrêté, mais on y met les formes. Il va pas être emprisonné. On va lui donner l'appartement du directeur de la conciergerie. Donc, il a une vue sur les quais. Voilà. Il reçoit... Le journal officiel publie même son menu. il reçoit, il prépare sa défense. Il reçoit les magistrats chargé d'instruire le procès. Et quant au procès, évidemment, un membre de la famille impériale ne va pas être jugé devant les tribunaux ordinaires. Donc c'est une haute cour, une cour d'exception qui va se réunir. Et pour éviter, parce que les républicains sont très forts à Paris, très nombreux, il peut y avoir des émeutes, pour éviter tout cela, on installe le procès dans une ville tranquille. C'est à Tours, bien loin d'Auteuil, bien loin des républicains parisiens, qu'on délocalise le procès. Ouais. Procès qui va être tout à fait scandaleux, dans la mesure où en plus, eh bien, le prince va être acquitté.
Et oui, et alors, il faut dire que sa défense, c'est dire, ah mais moi j'étais en état de légitime défense, Victor Noir a essayé de me frapper.
Tout s'est joué entre trois personnes.
Parole contre parole, quoi,
en fait. C'est ça, il y avait trois personnes, l'une est morte, et donc ensuite, c'est la parole du prince contre celle du malheureux Ulrich de Fonvielle. Ouais. Le prince dit qu'on l'a frappé, qu'on l'a menacé, qu'il s'est défendu, et dans le doute, le jury, qui est quand même très complaisant, l'acquitte. Mais il va y avoir une autre peine, c'est une peine politique. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes au début de l'année 1870, et cette affaire va complètement discréditer le régime de Napoléon III, qui va tomber avec, en plus, ses défaites militaires.
Voilà, vous voyez, quand je vous disais au début de l'émission que ces histoires n'étaient pas vraiment morales, ne cherchez pas la morale de celle-ci, en tout cas, il y en a vraiment, il n'y en a pas. On va faire une pause, et puis on va se retrouver ici, dans ce mondial de l'automobile, et avec Mathieu Frachon, on va vous en raconter une petite dernière, mais on n'oublie pas non plus Blanche de Hurel, celle qui était dans la maison près de la Madeleine et qui avait cette technique particulière pour attirer le client. On va vous le dire, je vous le promets, avant de partir.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on retrouve maintenant, comme je disais, Mathieu Frachon. Avant de parler du marquis Bernardi de Sigoyer, qui a obtenu le prix Goncourt des assassins, on expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire, en 1947. Juste peut-être, parce que on nous pose la question, vous parliez tout à l'heure de cette terrible femme, la princesse Jabirovska, là, avec ses têtes coupées, les 26 têtes sur un plateau d'argent, etc. Alors, elle est arrêtée, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas dit ce qui lui arrivait après.
Alors d'abord, on découvre qu'elle ne s'appelle pas plus Jabirovska que vous et moi. Ouais, ouais. Elle s'appelle Guilford, c'est une escroque. Une escroque.
C'est une anglaise.
Une anglaise. Ouais. Et alors, c'est une rumeur, pas tout à fait infondée apparemment. Ouais. Il se murmure que monsieur le frère du roi, le prince de Condé, aurait fait extraire la dame de sa cellule pour se la partager un soir de débauche avec un de ses amis.
Et que
la dame, très maligne, aurait profité du sommeil de ses amants pour prendre la porte d'escampette et filer en Angleterre où elle a coulé, paraît-il, des jours très heureux. Ouais. Ses amants ont tous gardé leur tête après.
Ah bon, d'accord. Bon, bah écoutez, alors, c'est presque moral, votre historien. Je dis, tant qu'il n'y en avait pas. Bon, c'est une morale.
À 26 détails près, oui.
Ouais. Bon, alors, le prix Goncourt des assassins, c'est quoi à propos?
C'est la guillotine, selon le mot de Louis-Ferdinand Céline.
Voilà. Alors, le monsieur dont on va parler a évidemment sa place dans ce panthéon des aristos du crime qu'on en trouve aujourd'hui. Aujourd'hui avec vous, il est marquis, c'est un authentique marquis.
Authentique, ouais. Marquis réunionnais, pas riche.
Oui, alors vous dites, non pas riche mais très malin, parce que vous dites, pour définir ses activités, en gros, c'est quelqu'un qui achète à crédit et qui vend au comptant.
Exactement.
C'est à peu près la définition de l'escroquerie, quoi, en fait.
Ah, hein, c'est un magnifique escroc, c'est quelqu'un qui est très très malin, très intelligent, qui va compenser effectivement une naissance, certes prestigieuse, mais totalement désargentée. Ouais. En arrivant en France, il va commencer par faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire séduire. Séduire, se faire entretenir, se débrouiller là-dessus, il est très très malin. Même si quelques tâches commencent à arriver, on se dit tiens, il aurait peut-être bien enlevé sa première fiancée, peut-être deux trois trucs un peu bizarres, mais bon.
La tentative d'enlèvement, on va l'envoyer devant les juges, mais là il va simuler la folie et il va donc du coup passer, au lieu d'aller en tôle, quoi, il va en
asile.
Voilà, bon.
Oh, c'est un stratagème assez courant. Un certain Petiot en a usé et abusé.
Puis il s'évade grâce à une maîtresse d'ailleurs.
Très fort de ce côté-là. Il sait très très bien utiliser la gente féminine et surtout son pouvoir de séduction.
Alors là où ça commence à ripper l'histoire, et maintenant il faut vraiment s'y attacher, c'est quand la guerre arrive. Hein.
Ah, la guerre, l'occupation. Quel formidable terrain de jeu pour n'importe quel assassin. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui tue au nom du bon, j'allais dire du patriotisme. Ouais. On ne sait plus rien.
Puis surtout, lui, il peut se déplacer à peu près comme il veut parce qu'il a fait quand même ami avec le.
Ah, il est très malin. Il va se dire, il va se mettre
l'occupant.
Il va se mettre du bon côté de la cravache, c'est-à-dire du côté nazi, du côté de l'occupant allemand. Il va ouvrir un café. N'oublions pas qu'il est polyglotte.
Ouais.
Donc en plus, il peut vendre ses services comme interprète.
Ouais.
Et puis surtout, il semble se ranger.
Mm-hmm.
Enfin. Monsieur le marquis a trouvé sa marquise, une certaine Jeannine, et il l'épouse.
Oui, mais il va embaucher une, pour s'occuper des enfants, hein, bien sûr, une certaine Irène. Irène Lebeau.
Oui, elle porte bien son nom, elle est très 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 jolie. Il va l'embaucher, puis elle va s'occuper des enfants et de l'intimité de monsieur le marquis éventuellement.
Voilà, et Jeannine va le comprendre.
Oui, et Jeannine est dans le genre féroce.
C'est simple les histoires que tu as racontées.
Tout à fait, c'est très simple.
Bah oui,
dans le genre féroce, elle va même arriver en pleine action. Sur le théâtre des opérations, elle va saisir sa rivale et va la boxer.
Voilà, ouais, d'accord.
Et sommer évidemment son mari de foutre le camp et de divorcer. Seulement voilà, divorce égale laisser la moitié de la fortune que le marquis a fini par un peu accumuler. Il a même été vigneron, viticulteur. Et de laisser la moitié à Jeannine. Hors de question.
Qu'est-ce
qu'on fait dans ces cas-là? On tue Jeannine. Tu n'as pas rien de plus simple. Donc, monsieur le marquis va se débrouiller pour attirer Jeannine. D'abord, il va faire le gentil, dire j'accepte un gentil divorce, soyons sages, il n'y a pas de problème. Une généreuse pension.
Viens chercher les 10 000 francs.
Viens chercher l'argent, 10 000 francs, une somme considérable.
Et alors,
viens chercher l'argent.
Le 28 mars 44, elle rentre dans la maison, mais
elle ne ressortira pas.
Elle ressortira jamais.
En fait, les pieds devant, mais ça, on le saura plus tard.
Ouais. Alors, évidemment, il y a la mère de son épouse assassinée, mais ça, qui va déposer plainte quand
disons
même
que
signaler la disparition.
Tout à fait. Disons qu'une femme qui est passionnée a bien hérité ce caractère passionné de quelqu'un, hors de sa mère. Et Madame Kergoff n'accepte pas du tout que sa fille ait disparu. Voilà. Elle va même aller jusqu'à demander l'aide de la Gestapo.
Oui.
Laquelle va rentrer dans cette histoire de corne-cul un peu quand même qui tragique.
Mais l'autre n'avoue pas, on lui a dit n'avoue
jamais.
On lui a
même fait, n'avoue jamais, on lui fait même le supplice de la baignoire, il ne dit rien.
Voilà. Alors, il va quand même être condamné pour ce meurtre à la guillotine. On parlait donc
parce que Irène Levrault va craquer. Sa maîtresse va finir par craquer. Il va évidemment jouer la carte de l'ancien collaborateur devenu résistance, finir par se faire reconnaître par des policiers, se retrouver à la guillotine.
Voilà.
Et alors là, détail absolument épouvantable.
Voilà, qui va montrer pourquoi son avocat, Maître Izorni, le grand avocat, va l'appeler l'incarnation de Satan. En deux mots, parce que je voudrais qu'on parle de Blanche
en
de
deux
Lurel.
Mots, l'incarnation de Satan. Ouais. Le lendemain de l'exécution, un homme frappe à la porte en pleine nuit de Maître Izorni et se présente comme le fantôme du marquis Bernardi de Sigoyer. En fait, c'est un comédien. Que le marquis a lui-même engagé.
Payé par le marquis.
Que le marquis a lui-même engagé pour assouvir une vengeance d'outre-tombe.
Voilà, mon avocat n'a pas su me sauver la tête.
Je vais lui faire perdre la sienne.
C'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu Frachon. Alors, on a dégagé une minute et demie avec vous, Bruno Fuligny, pour revenir sur cette maison qui avait été investie par la police près de la Madeleine, etc., etc. On ne va pas raconter l'histoire. Parmi les personnes, une noble, Blanche de Hurel. Elle a beaucoup été en Bretagne dans sa jeunesse et elle en a ramené une étrange pratique.
Oui, c'est une vraie noble qui se prostitue et qui est un peu superstitieuse. Alors quand il n'y a pas de clients, elle s'ennuie. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Voilà ce que nous dit le rapport de police. Elle profita d'un moment où on l'avait laissée seule pour faire flamber un tas de papiers sur un tapis. Puis elle se plaça au-dessus après avoir retroussé ses jupons
et
jusqu'à la ceinture.
Et retiré sa culotte, disons-le.
Elle n'en avait pas. On l'a surpris dans cette position et elle avoua que chaque fois qu'elle avait besoin d'argent, elle agissait ainsi, attendu que lorsqu'elle parvenait à faire entrer de la fumée de papier enflammé dans ses parties génitales, cela lui partait bonheur et qu'elle était alors certaine de B, trois petits points dans le rapport, avant la fin de la journée, par conséquent, de gagner de l'argent.
Voilà. Et le truc lui avait été donné par une sorcière bretonne.
Et ça marche sûrement.
Et ça marche, bien sûr, puisque
si c'est écrit dans le rapport de police, c'est que ça va marcher.
Exactement. Peut-être elle lui avait dit, si c'est pas pour baiser, c'est peut-être pour échapper aux policiers aussi, mais là, ça n'a pas marché par contre. Bien, je vous remercie beaucoup tous les deux, on a passé un très bon moment ensemble. Merci Bruno Fuligny et merci beaucoup Mathieu Frachon. Je rappelle donc le titre de cette revue qui vient de paraître au début de ce mois d'octobre, Les Aristos du crime. C'est donc la collection Folle Histoire qui va revenir dans 3 mois. Vous connaissez déjà le thème d'un mot.
Le numéro 2, ce sera Les Grandes Hystériques.
Tout un programme. Mais écoutez, considérez que vous êtes déjà invité pour en parler. Voilà, l'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un petit instant, bien au chaud, rue Bayard. Jacques Pradel sur RTL.